La première alliance, Lévitique, est une alliance cérémoniale. Terminée cette alliance, nous sommes dans l'alliance d'amour avec l'expression corporelle, c'est-à-dire exprimer la vie de Dieu par Jésus-Christ. Cet enseignement est adressé à tous les croyants, non pas pour plaire aux hommes, mais pour être agréable à Dieu. L'alliance cérémoniale est terminée. Frères et sœurs en Christ, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alliance cérémoniale a pris fin par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Cette alliance cérémoniale a été recommandée, bien sûr, par Dieu aux enfants d'Israël. C'est cela l'ancienne alliance avec ses lois, ses ordonnances, son culte. Cela constitue les rites et les traditions données aux enfants d'Israël par leur médiateur Moïse. Moïse était le médiateur entre les enfants d'Israël et Dieu. Hébreux 7, versets 11 et 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Beaucoup parmi ceux qui se disent serviteurs de Dieu, quand on leur parle de la nouvelle alliance, de la loi, de la nouvelle alliance, ils rétorquent. Il est sûr et certain que Dieu ne change pas sa nature sainte et parfaite. Mais Dieu est libre et maître de lui-même. Dieu peut changer sa décision. Voyons Jérémie 18, versets 7 à 11. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Voilà la vérité. Dans ces passages, Dieu dit bien qu'il peut changer sa décision. Ainsi, pour l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël, Dieu l'a bien changée. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Hébreux 8, versets 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère,
en disant « Connais le Seigneur ».
Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. C'est le comportement de l'homme vis-à-vis de la loi de Dieu qui pousse Dieu à changer sa décision. De même, pour des pères charnels que nous sommes, un enfant qui se comporte d'une mauvaise manière ne reçoit pas une récompense de son père. Beaucoup se trompent en lisant mal les Écritures, en disant « Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse et ses ordonnances ». Ces personnes, lisant mal les Écritures saintes, continuent aveuglément à imposer aux croyants chrétiens la loi de Moïse et ses ordonnances. Ils continuent à célébrer le culte, les rites et la tradition de l'alliance lévitique. Ceux qui agissent de cette manière contredisent Dieu qui a dit lui-même « J'ai changé mon alliance ». Jérémie 31, versets 31 et 32. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Hébreux 8, versets 7 à 9. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Et plus bas dans le verset 13, en disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne, « Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Mais n'oublions pas ce que dit Paul. Galates 2, 21. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Si ces frères-là contredisent Dieu le Père de Jésus-Christ, alors quel Dieu ils adorent? Ils n'adorent pas le vrai Dieu saint, mais un autre Dieu. Ils ignorent le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne reconnaissant pas véritablement le sacrifice et l'offrande unique de son Fils Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour nous sauver, ces frères-là conduisent les enfants de Dieu à la mort. Car sans la reconnaissance de ce sacrifice et cette offrande, l'homme reste mortel et privé de la vie éternelle. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Il n'y a que deux rois,
le roi du bien et d'amour, Jésus-Christ, et le roi du mal qui est Satan. Ceux qui continuent dans l'ancienne alliance, alors que Dieu a changé cette alliance, n'ont pas choisi le roi du bien et d'amour. Car celui qui choisit le roi du bien et d'amour pratique la loi de Jésus-Christ. Cette loi venant du roi du bien et d'amour est le socle de la nouvelle alliance. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le croyant chrétien doit faire le choix entre les deux rois. Nous ne sommes plus dans l'alliance cérémoniale. La nouvelle alliance par Jésus-Christ, c'est l'alliance de l'expression corporelle de la nature de Dieu Saint. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 22, verset 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Accomplir cette loi, c'est rendre un culte agréable à Dieu. C'est cultiver en soi la vie sainte de Dieu. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et Jésus-Christ nous a véritablement fait connaître la nature sainte de son Père, en nous donnant l'exemple de cette vie de Dieu. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus-Christ nous a fait connaître son Père par ce qui sortait de sa bouche et les œuvres, c'est-à-dire les actes et gestes qu'il posait chaque jour tout au long de son séjour sur la terre des hommes mortels. C'est pour cela Dieu le Père nous a ordonné de l'écouter. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En l'écoutant, nous écoutons Dieu. En l'imitant, nous imitons Dieu. Ce qui doit sortir de la bouche d'un croyant chrétien doit toujours exprimer l'amour. Éphésiens 5, versets 3 à 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le corps du croyant chrétien ne doit pas exprimer les gestes et les actes contraires à la parole de Dieu. Romains 6, versets 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché
comme des instruments d'iniquité,
mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Tous ces bâtiments de briques que les hommes considèrent comme maison ou temple de Dieu ne sont pas en conformité avec les Écritures saintes. Ils tapent simplement à côté. Car Dieu n'habite pas dans ces maisons faites par des mains d'hommes. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Ce temple a été détruit par Jésus-Christ. Jésus-Christ a construit le vrai temple qui était son corps. Jean 2, versets 19 et verset 21. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est dans ce nouveau temple qu'habite l'Esprit et la parole de Dieu, avec la plénitude divine. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Étant ses enfants adoptifs, nous sommes aussi le corps du Christ, où doit habiter la plénitude divine de Dieu. C'est dans ce temple que se déroule le vrai culte de bonne odeur agréable à Dieu. Le culte, c'est les actes et gestes que nous posons à chaque instant, c'est-à-dire le comportement, l'attitude, la conduite que nous exprimons tout au long de notre séjour sur la terre. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est dans le corps du croyant chrétien que le culte se passe. Les œuvres que le croyant chrétien pose vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, bien sûr, sans distinction de couleur, d'origine ou de religion, c'est-à-dire son prochain, son semblable. Ce croyant chrétien est en conformité selon la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Cela réjouit le cœur de Dieu. Matthieu 25, versets 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Celui qui pratique toutes ces choses, Dieu le qualifie de juste. Dieu prend plaisir à le bénir et à le protéger. C'est cela, marcher devant Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Voilà maintenant, amis frères et sœurs en Christ, la vérité de la nouvelle alliance et sa loi royale. Jacques 2,8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En espérant que cet enseignement vous a parlé et qu'il vous aidera à sortir de l'ancienne alliance, loi de Moïse, et que votre conscience vous conduise vers Jésus, l'unique porte qui vous fera entrer dans la bergerie, là où sont votre frère, votre sœur et votre mère en attente du royaume éternel. Pour y pratiquer la loi royale de la nouvelle alliance, donc la volonté de Dieu, non des hommes. Luc 8, verset 21. Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Que le Seigneur vous garde, frères et sœurs.